Chapitre 43. Pablo Picasso. Il faut tout briser. De retour à l'Hôtel Dieu après 2 mois d'absence, bien calé derrière son bureau, le docteur Van Horst semblait avoir rajeuni. Tous les bilans optiques de Mona étaient rassurants. N'était le risque de cécité, sa vue s'avérait d'une acuité exceptionnelle. Chacun des tests le prouvait. Reprenant ses habitudes, Van Horst fit sortir Camille du cabinet et installa l'enfant dans le gros fauteuil en cuir. Il lui jeta alors un regard très grave. « Est-ce que tu te sens prête à affronter une expérience qui sera peut-être douloureuse ?»«
Est-ce que je risque de mourir ?»«
Bien sûr que non, Mona. Mais pour vérifier mon hypothèse, je ne peux pas te dire à l'avance l'objet de la séance. » Mona hésita une seconde, puis hocha la tête avec énergie. Le médecin, au lieu de la plonger dans un état d'hypnose, l'invita à se détendre mais à rester consciente, à s'apaiser sans abandonner son attention au monde environnant. Quand il sentit Mona tout à fait tranquillisée, il lui demanda de garder les yeux bien ouverts, d'éviter de battre des paupières. Alors il lui suggéra d'ôter tout doucement le collier auquel pendait le coquillage. L'enfant pinça le fil de pêche entre ses doigts et très lentement le passa au-dessus de sa tête. Et le monde s'obscurcit. L'espace blanc de l'hôpital se noya dans l'ombre, d'abord les murs, puis le sol, le plafond, le mobilier, et à une vitesse prodigieuse, Mona n'aperçut plus ses propres membres fondus dans le néant. C'était terrifiant. Elle avait les yeux écarquillés, les pupilles dilatées, mais toute clarté avait fui. Le cauchemar déjà vécu dans la cuisine avec sa mère, dans la brocante avec son père, au musée d'Orsay avec son grand-père, le vaste cauchemar de la cécité recommençait et s'accompagnait d'une dévorante sensation de froid. La voix du docteur l'exhortait à respirer. Une vague de chaleur réanima son corps. Elle avait la possibilité de se mouvoir à nouveau. Elle remit le pendentif autour de son cou. Le cérite gommier se cala sur son torse. Et l'univers se redessina, comme si l'aube avait absorbé en un instant la nuit. Mona reprit son souffle, et d'un filet de voix tremblant, presque muet, livra son expérience au médecin.
« La lumière s'est éteinte, encore une fois. »
Ce dernier effaça de son visage sa subjugation, laissa passer un temps, et glissa dans un sourire furtif. « J'ai vu, Mona, tu as été forte. » Puis à Camille, qui rentrait dans la salle pour récupérer sa fille, le médecin expliqua d'un ton à la fois ferme et précautionneux « Mona ne doit pas quitter le collier qui lui entoure le cou. Nous ne sommes plus très loin. » Henri avait apporté un cadeau à sa petite fille, une large capeline en paille dont la calotte était entourée d'un ruban crème. Mona était irrésistible avec ce chapeau. « La dernière fois que quelqu'un l'a porté, c'était ta grand-mère, » murmura Henri. L'enfant mesura instantanément l'importance du présent et en eut une montée de larmes. Elle se frotta les yeux pour les empêcher de jaillir. Ce faisant, elle s'arracha sans le vouloir un cil qui alla se nicher entre la paupière et la cornée. Elle se mit à lutter avec cet infime parasite. De même qu'une écharde dans le pied, la moindre particule se glissant dans l'œil révèle tout le pouvoir invasif de l'infiniment petit. Un cil. Il suffit d'un cil pour qu'une machine convulse et s'arrête. Quand Mona eut finalement raison de l'intrus, tout son corps en éprouva un soulagement intense, inversement proportionnel à l'insignifiance du dommage. Quel sinistre spectacle, songea Henri, que celui de sa Mona chérie se débattant avec ses yeux. Et ceci, aujourd'hui, allait devoir lutter encore peut-être plus que jamais. Car le plus grand perturbateur du regard de l'histoire de l'art les attendait dans les salles de Beaubourg. Il y avait 2 femmes. L'une à l'horizontale allongée, nue sur un lit, bien centrale dans la composition, et l'autre assis sur une chaise sur la droite au premier plan, tenant par le manche une mandoline sans enjouer. À gauche, un cadre vide en bois était posé au sol. Tout cela, on pouvait le discerner, certes, mais au prix d'un certain effort, car rien dans la peinture n'était rendu de façon souple ou réaliste. Tout était figuré en facettes et en fractures, de manière extrêmement anguleuse. Tête, menton, genoux et coudes étaient traités en pointe et non en arrondi, et baignaient dans une atmosphère sombre. L'arrière-plan, qui ne consistait qu'en une architecture dépouillée, construite avec des perspectives aberrantes, était tout en nuances de brun, de gris, de noir, de marron. La chair du modèle allongé tournait au beige maladif, et la joueuse de mandoline avait la peau bleue et portait un chignon vert. Le lit et la chaise ne dégageaient aucun confort. Mais surtout, les corps humains étaient d'une profonde étrangeté. Au lieu de l'emplacement habituel des attributs physiques, ceux-ci se combinaient sans respect de la symétrie ni de l'anatomie telle qu'on les connaît. Les yeux se trouvaient au sommet du front et en décalage l'un par rapport à l'autre, la bouche n'était qu'un trait sans lèvres, et des permutations troublaient la lecture. Par exemple, la femme allongée paraissait tout à la fois se tourner vers le spectateur, de sorte que l'on pouvait voir son pubis, mais son flanc était surmonté de deux arcs de ses fesses, comme si elles étaient peintes en raccourci depuis les pieds ou la tête. De même, chez l'un ou l'autre modèle, l'épaule et le sein semblaient se confondre. Les notions de face, de profil, de trois quarts, de relief et d'aplat, de profondeur et de surface, coïncidaient toutes et toutes volaient en éclats, comme s'il s'agissait du reflet d'un miroir brisé. L'aubade de Pablo Picasso emporta Mona dans un ravissement ininterrompu pendant de longs instants. Elle comprit tout de suite que ces deux femmes, dans une visée traditionnelle ou académique, auraient été le support d'une certaine beauté, d'une lascivité douce et onctueuse. Or, ici, l'excitation qu'elles inspiraient provenait de leur aspect détraqué, presque monstrueux, et de l'expressivité de la peinture elle-même, dont chaque ligne, chaque épaisseur, chaque couleur accrochait l'attention. Mona, assise en tailleur devant l'œuvre, demeurait la bouche ouverte, et Henri entendait son souffle haletant, celui de quelqu'un qui patiente. En 1940, attaqua Henri, la France perdit la guerre contre les nazis et Paris se retrouva occupé. C'était une atmosphère étrange et asphyxiante partout dans la ville. Car une puissance ennemie, violente, raciste, antisémite, faisait taire les voix de la liberté. Or, Picasso comptait parmi ces voix. Espagnol, né à Malaga en 1881, fils de peintre, il avait d'abord été un exceptionnel technicien, doté d'une maîtrise picturale très précoce. « Quand j'étais enfant, disait-il, je dessinais comme Raphaël. Mais il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. »
« Ça me rappelle Cézanne. »
« Oui, et Cézanne a d'ailleurs été un grand modèle pour Picasso. Regarde cette aubade. Tout y est fragmenté, comme si on pouvait voir la face, le profil et l'arrière des deux modèles en même temps. C'est un style que l'on a qualifié à l'époque de cubiste, un style profondément inspiré par Cézanne, et qui a commencé à vraiment s'imposer dans les années 1910. Picasso et son ami Georges Braque en furent les grandes figures. Ils cherchaient à décomposer la réalité, à la déconstruire pour la réagencer à leur manière, en montrant l'endroit et l'envers du monde. Picasso a eu de nombreux styles différents dans sa vie. Mais cette approche cubiste, il y revient très fréquemment, et c'est le cas là, en 1942, dans cette aubade.
Et c'est un peu comme si le monde était en morceaux.
Oui, en morceaux. Picasso a fait quelques œuvres très engagées contre la guerre, et notamment une immense toile très célèbre qui s'appelle Guernica, et qui dénonce le massacre de gens ordinaires, de civils, sur un marché en Espagne en 1937. Mais chez Picasso, ce sont les sujets les plus quotidiens qui, par le fractionnement dont ils sont l'objet, sont capables de traduire l'implosion des repères.
Moi, je dirais que dans ce tableau, il y a un peu de toute la peinture qu'on connaît bien.
Je me souviens par exemple des femmes nues et de la musique dans le concert champêtre de Titien. Mais là, Picasso rend la scène plus triste, plus sombre, parce que c'est en intérieur que tout y est déformé, que les teintes sont sourdes. Henri, émerveillé, voulut féliciter sa petite fille. Mais il se ravisa. Devant Picasso, il parlait désormais quasi d'égal à égal. « Je parie, » reprit Mona, « qu'on croyait qu'il voulait faire du mal à la peinture, Picasso. Mais il l'aimait plus que tout. » Oui, Picasso connaissait remarquablement bien les maîtres anciens. Et cette aubade doit beaucoup aux compositions de Titien, comme tu l'as noté. Picasso adorait aussi Goya, Courbet, Manet. C'est comme s'il s'en emparait et les réinventait à sa manière, non pour s'en moquer, mais pour prolonger leur génie. Cette aubade, où tout semble s'être disloqué, où les jeux de perspective deviennent labyrinthiques, est au fond d'un grand classicisme. Mona médita un bon moment. Classique, classicisme, c'était des mots que son grand-père avait utilisés devant Poussin, devant David, devant des œuvres où régnait une puissante stabilité, une rigueur. Mona se rappela aussi toutes les fois où il avait été question du moderne et de la modernité, notamment devant Monet. Se pouvait-il que Picasso fût la rencontre miraculeuse de ces deux notions ? Henri reprit la parole. Il y a beaucoup d'indices d'un climat tragique. La déstructuration des visages et les corps très figés, les motifs anguleux du plafond, les couleurs éteintes et les pénombres. Et puis, il y a comme un vide. Je sais ce que tu vas dire, Dadé. Ce cadre sur la gauche. Normalement, il devait entourer un tableau ou quelque chose comme ça. Mais là, il est tout seul. Et ça, c'est le symbole de l'artiste qui arrête de peindre. C'est l'artiste qui se tait. Picasso était une voix de la liberté, et il en était réduit au silence. De même que la femme à droite tient sa mandoline sans en jouer. C'est cela que raconte le petit cadre. Il faut que tu saches que les nazis détestaient l'art de Picasso. Ils disaient qu'il était dégénéré. Les nazis pensaient que l'art devait nécessairement représenter les corps humains dans leur puissance et leur attrait. Ce que fait Picasso en figurant une tête vert et bleue au crâne pointu ou une aisselle à la place de la poitrine constitue pour eux une injure à l'être humain et concourt à sa déchéance, à sa décadence, à son affaiblissement. Et là, regarde, il y a au centre 9 lignes du matelas qui sont un peu cassées. Et comme elles sont bien au centre, on pense à des barreaux de prison ou à des cordes pour attacher quelqu'un à un lit. Et regarde, Adé, il y a aussi 9 traits noirs pour la chevelure de cette femme allongée. Et ses cheveux aussi, ils sont lourds, comme du métal. Henri, à ces mots, se rapprocha du tableau pour compter les mèches séparées par un filet gris. 9. Elles étaient bel et bien 9. Une fois encore, Mona les avait saisies d'un coup d'œil, un seul. Elle lui rappelait à certains égards l'incroyable perception qu'avait Picasso, dont le génie était en fait double. C'était évidemment un extraordinaire inventeur de formes, capable de faire feu de tout bois. Le meilleur exemple en était, en 1942 également, une sculpture de tête de taureau qu'il réalisa en combinant une selle de cuir et un guidon de vélo trouvé dans un bric-à-brac d'objets. Mais c'était avant tout le plus accompli des observateurs. Picasso examinait tout ce qui l'entourait avec la vision perçante des oiseaux de nuit, animaux qui exerçaient sur lui une fascination totale et dans lesquels il se reconnaissait. Que fait donc Picasso en définitive ? Il désarticule le réel, il en retourne la peau. Alors le réel, au lieu d'être lisse et plat, se montre soudain plein d'aspérité et d'arêtes, de cassures et de saillies. En fait, Mona, je me dis que Picasso aurait aimé que ses tableaux agissent un peu à la façon du cil coincé dans ton œil tout à l'heure. Il aurait voulu qu'il plonge les spectateurs dans l'inconfort visuel. Son grand ami et rival Henri Matisse décrivait de son côté la peinture comme quelque chose d'analogue à un bon fauteuil qui délasse des fatigues physiques. C'est tout le contraire avec cette aubade. La peinture nous renvoie à la dureté du monde. Ici, comme tu l'as vu, le matelas lui-même ressemble à une prison.
Il faut tout briser. C'est ça la leçon de cette aubade peinte pendant la guerre. Il faut briser les chaînes. Il faut briser les barreaux.
Et mieux encore, Mona, il faut briser tout ce qui nous entoure pour en comprendre le fonctionnement. Avec la peinture, Picasso est très savant et très enfant. Très savant parce qu'il s'inscrit dans la lignée des maîtres et veut percer les secrets de l'univers.
Très enfant parce que pour y arriver, il se comporte exactement comme un gosse.
Il démonte ou casse des jouets et des objets pour en découvrir les mécanismes.
Et il les remonte à sa façon,
dit Mona en haussant les épaules. Elle regagna Montreuil coiffée de la capeline de sa grand-mère. Elle en était très fière. Lorsqu'elle arriva chez elle, Cosmos lui sauta dessus et semblait vouloir s'emparer du couvre-chef. Mona le lui mit sur la tête et s'esclaffa, car la bestiole, encore petite, se retrouva en intégralité sous le chapeau. Finalement, Mona reprit son cadeau, retira le ruban crème qui encernait la calotte et le noua autour du cou de Cosmos.
« Il faut que je te parle de l'aubade, de Picasso, » dit-elle au chiot. Mais à peine voulut-elle dispenser sa leçon qu'elle fut rattrapée par les lacunes de la jeunesse. Une aubade, qu'était-ce au juste ?